sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors le 20 mai est jour anniversaire d'Honoré de Balzac, le père des 573 personnages de la comédie humaine. Un Balzac que Franck Ferrand a choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est aujourd'hui aussi que paraît la biographie événement de Gonzague Saint-Brice, une biographie consacrée donc à notre plus grand romancier. On croit connaître Balzac parce qu'on a lu le père Goriot à l'école ou qu'on a vu le colonel Chabert au cinéma. Mais en lisant cette nouvelle bio, j'ai réalisé que l'œuvre du grand homme était émaillé de titres inconnus. Qui a lu par exemple Une passion dans le désert ou l'illustre Gaudissart? Et mieux que ça, j'ai redécouvert une vie tissée de surprises. Balzac, camarade de Michelet sur les bancs du collège, Balzac sauvé du suicide par le frère d'Arago, enfin, des choses étonnantes.
Alors chers auditeurs, si vous aussi vous aimez Balzac et que vous avez peut-être des révélations à nous faire, bah, n'hésitez pas à nous écrire via internet ou sur la page Facebook de l'émission.
Une émission qui va nous conduire au cœur de l'histoire d'un géant, le Napoléon des lettres, comme disait Gérard de Nerval. Parlons de Balzac, ça fait du bien.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Honoré de Balzac tourne et retourne la lettre, il en palpe le joli papier de ses petites mains potelées, belle écriture et style exquis. Le mystérieux courrier est signé « L'étrangère ». Oh, c'est une charmante lettre, de celles qui pour un écrivain sont la récompense et comme le prix des efforts. Balzac soupire, la mystérieuse étrangère est une admiratrice, naturellement, mais ce n'est pas une inconditionnelle pour autant. Ses réflexions sont celles d'une lectrice avertie du génie de l'auteur, évidemment, mais en même temps consciente de ses défauts, de ses insuffisances. Elle admire par exemple le roman Les Chouans. Elle place très haut dans son estime la nouvelle intitulée Un épisode sous la terreur. Et en revanche, un autre roman très récent lui paraît manquer de délicatesse amoureuse. C'est ainsi qu'elle l'écrit et qu'elle l'écrit sans détour. Elle a éprouvé le besoin de le dire à Monsieur de Balzac. On est au printemps 1832. Honoré de Balzac a donc 33 ans. Il sort d'une aventure un peu trop chaste à son goût avec la marquise de Castres, cet ange de bonté qui sera le modèle de la duchesse de Langeais. Or, il est intrigué par cette lettre signée « L'étrangère ». Et d'autant plus intrigué que la provenance du courrier a de quoi faire rêver Odessa. Odessa, l'Ukraine, la mer Noire. Ça nous paraît lointain à nous aujourd'hui, mais à l'époque, c'est carrément le bout du monde. Honoré aimerait bien en savoir davantage. Ah, ce papier très élégant, ce style, cette calligraphie, ça doit être une princesse, se dit-il. Une princesse russe ou polonaise. Oh, sans aucun doute, une beauté. Le problème, c'est qu'il n'y a sur, j'allais dire sur l'enveloppe, à l'époque il n'y a même pas d'enveloppe, mais il n'y a sur le pli ni nom, ni coordonnées d'aucune sorte. Et dans ces conditions, comment répondre à l'étrangère? Une idée vient à Balzac. Après tout, puisque la dame n'a pas laissé d'adresse et qu'une réponse privée se révèle donc impossible, pourquoi ne pas lui adresser une réponse publique? Dans le numéro du 4 avril 1832, les lecteurs de la Gazette de France peuvent lire le prière d'inséré suivant. « Monsieur de B a reçu une lettre qui lui a été adressée le 28 février. Il regrette d'avoir été mis dans l'impossibilité de répondre et si ses vœux ne sont pas de nature à être publiés ici, il espère que son silence sera compris. » Malheureusement, ce que ne peut pas savoir Balzac, c'est que depuis la Révolution des Trois Glorieuses en 1830, la quasi-totalité des journaux français, dont la Gazette elle-même, sont interdits sur le territoire russe. Et évidemment, sa bouteille à la mer va rester au milieu des flots. Les semaines passent sans réponse et les mois. Et voilà que, le 7 novembre, une nouvelle missive arrive chez Balzac. Il habite encore rue Basse à l'époque, évidemment. Missive signée, une fois encore, « L'étrangère ». Un instinct d'âme me fait pressentir votre être, écrit l'étrangère. Je me la figure à ma manière et je dirais, le voilà, si je vous voyais. Votre extérieur ne doit point faire pressentir votre brûlante imagination. Il faut vous animer. Il faut que se réveille en vous le feu sacré du génie qui alors vous fait paraître ce que vous êtes et vous êtes ce que je sens, un homme supérieur dans la connaissance du cœur de l'homme. Heureusement, cette fois, l'étrangère propose quand même un moyen d'entrer, encore très indirectement, mais d'entrer tout de même en relation avec elle. Un mot de vous dans la quotidienne me donnera l'assurance que vous avez reçu ma lettre et que je puis vous écrire sans crainte. Signez-le à l'EHBE, sans doute pour l'étrangère, HB. La quotidienne, c'est précisément le seul journal français autorisé à pénétrer en Russie à l'époque. Balzac saute sur l'occasion et dans le numéro du 9 décembre 1832, on peut lire ces quelques lignes. Monsieur de B a reçu l'envoi qui lui a été fait. Il n'a pu qu'aujourd'hui donner avis par la voix de ce journal et regrette de ne pas savoir à qui adresser sa réponse. À l'EHB. C'est une correspondance qui, comme ça, va s'installer. L'étrangère finit par révéler son nom. Elle s'appelle Madame Anska. Elle révèle aussi son adresse, malheureusement pour moi, parce qu'il faut que je vous lise ça. Elle habite à Vierzchwozna. Elle a refusé de lui donner son prénom, mais au moins Balzac peut lui répondre. Si vous saviez avec quelle force une âme solitaire et dont personne ne veut s'élance vers une affection vraie, je vous aime inconnu, et cette bizarre chose n'est que l'effet naturel d'une vie toujours vide et malheureuse. Je suis comme un prisonnier qui du fond de son cachot entend au loin une délicieuse voix de femme. Je vous aime déjà trop sans vous avoir vu. Il y a certaines phrases de vos lettres qui m'ont fait battre le cœur, et si vous saviez avec quelle ardeur je me lance vers ce que j'ai si longtemps désiré, de quel mouvement je me sens capable. » Madame Anska est un peu impressionnée par cette lettre. Elle tente de réfréner un peu les ardeurs de son correspondant. « Pour vous, écrit-elle, je suis l'étrangère et je le resterai toute ma vie. Vous ne me connaîtrez jamais. » Alors, en cachette d'Honoré, voyons un peu entre nous qui est cette Evelyne. C'est ça son prénom, Evelyne Anska. Lui ne l'appellera qu'Ève. Elle a la trentaine, comme Balzac. Elle a été mariée très jeune à un riche propriétaire terrien, le comte Anski, qui est polonais comme elle. Le comte Anski est à la tête de 22 000 hectares. Ça vous donne une idée un peu de la fortune, mais il n'y a pas là de quoi rendre heureuse pour autant une épouse qui, bravement, lui a tout de même donné 5 enfants, dont 4 sont morts jeunes. Seule une fille, la tendre Anna, a survécu. C'est pour occuper ces très longs loisirs qu'Evelyne, qui en plus du polonais et de l'allemand parle couramment le français, s'est jetée dans la littérature romanesque du pays de Chateaubriand. Elle a lu le Vicomte, évidemment, mais aussi Lamartine, Hugo, George Sand, enfin Balzac, qui l'a ébloui. Ève aura beau tenter de maintenir l'écrivain à distance, une sorte d'attirance mutuelle les conduit à vouloir se rencontrer. Elle va avoir lieu, cette rencontre. Elle prend place en septembre 1833, en Suisse, sur les bords du lac de Neuchâtel.
L'ouverture de La Pivoleuse de Joaquin Rossini sur Europe 1.
Oui, quand on a préparé cette émission avec Guillaume, j'ai dit on va mettre l'ouverture de La Pivoleuse, mais c'était pas cet extrait-là. Là, c'est un peu militaire ce qu'on entend pour une rencontre amoureuse. Ça m'apprendra à écouter les morceaux en entier. Alors, Gonzague Saint-Brice, dans sa biographie, nous raconte cette rencontre extraordinaire entre Balzac et Madame Anska. Balzac, nous dit-il, promène son épaisse silhouette sans prêter attention au superbe paysage montagnard qui l'entoure. Sa canne à la main, il marche de long en large en cet après-midi de fin d'été où la douceur de l'air berce les sapinières. Et soudain, nous dit-il, une femme, elle aussi encore jeune, belle, très belle même dans sa toilette violette, s'avance vers lui, à demi dissimulée sous son ombrelle. Elle le regarde, il la contemple et aussitôt, sans se connaître, ils se reconnaissent. Alors, ôtant brusquement son chapeau, il s'incline profondément, baise sa main et murmure « Enfin vous ». Est-elle déçue par la médiocrité du physique de son correspondant, cette femme de 30 ans qui rêve de tomber amoureuse, ou ne voit-elle, au-delà de la vulgarité des traits, que le génie de l'écrivain? On ne sait, mais lui est foudroyé par cette apparition. Et de 7 secondes, il n'aura plus qu'une seule idée, épouser cette beauté céleste, incarnant qui plus est la femme du monde la plus accomplie, la parente de la reine de France. L'essentiel est que nous ayons 27 ans, écrit-il à sa sœur. Nous, il parle bien d'elle, hein, vous avez compris. Que nous soyons belles par admiration, que nous possédions les plus beaux cheveux noirs du monde, la peau suave et délicieusement fine des brunes, que nous ayons une petite main d'amour.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et le récit de Franck nous relate aujourd'hui sur Europe 1 la relation entre Honoré de Balzac et sa correspondante, Madame Anska.
Relation, c'est bien le terme, largement épistolaire, en tout cas dans les débuts. Alors là, ils se sont quand même rencontrés hein, en Suisse. Et quelques jours après cette rencontre, Balzac et Madame Anska se retrouvent au milieu du lac de Bienne, dans l'île Saint-Pierre. Et là, tandis que le mari, parce que Anski est du voyage, évidemment,
oui, évidemment,
tandis qu'il s'occupe de déjeuner, Evelyne et Honoré échangent leur premier baiser. Ils ont des projets plein la tête. Et oh, il ira la voir là-bas en Ukraine. Ils visiteront le Caucase ensemble. Elle viendra à Paris. Mais oui, il en fera l'égérie des romantiques. En attendant, ils se retrouvent à Genève pour Noël et la main dans la main, comme unis dans le souvenir de Byron, ils visitent la villa Diodati. Hélas, quand Balzac rentre à Paris, c'est à chaque fois pour retrouver la meute de ses créanciers et cette espèce de table de travail où, comme un forçat, il lui faut chaque jour, de minuit à 6h du soir, car il se lève à minuit pour travailler, vous imaginez, il lui faut noircir ses feuillets interminables, toutes ces pages de feuilletons. Vous savez que Balzac, c'est l'image célèbre, ne tient qu'à coups de rasade de café. Ça ne l'empêche pas d'avoir des aventures. Et Eve Anska, qui est bien entourée, elle a des amis qui se renseignent de tout ce qui se passe à Paris, etc. Elle se doute bien de quelque chose et elle s'en plaint par courrier interposé. Elle lui fait promettre de la rejoindre à Vienne au printemps. Il ne peut pas lui expliquer que pour lui c'est très difficile, il est déjà tellement endetté. Enfin, il arrive à emprunter 2000 francs de l'époque, c'est beaucoup d'argent quand même, à son éditeur. Les créanciers, eux, pourront attendre et il la rejoint donc en Autriche. Les créanciers se montrent tellement pressants à l'époque que pour les calmer, la sœur de Balzac va devoir porter son argenterie au Mont-de-Piété. Vous voyez dans quelle ambiance tout ça se passe. Les retrouvailles à Vienne ne sont pas du tout ce que Balzac était en droit d'espérer. Madame Anska s'est laissée convaincre par les ragots que lui rapportent certaines de ses amies, selon lesquelles l'écrivain multiplie donc les aventures et les frasques. Elle est jalouse et elle l'accueille très froidement. Heureusement, pour compenser, la capitale autrichienne réserve un véritable triomphe à Balzac. Tout le monde lit ses œuvres à l'époque, même en Autriche, vous voyez. C'était l'époque où l'Europe parlait français, n'est-ce pas? Il passe néanmoins 12 heures, bien qu'en Autriche et en voyage, il passe toujours 12 heures par jour à sa table. Et puis les 12 autres heures, il est bien entendu avec la belle polonaise qui peu à peu se radoucit quand même. Et avant qu'il ne reparte, elle lui pardonne ses incartades. Réel ou supposé. « Mon Ève adorée, lui écrit-il, je n'ai jamais été aussi heureux et je n'ai jamais tant souffert. Je savais ce que je venais chercher de douleur et je les ai trouvés. » Ce qu'ils ne savent pas, l'un et l'autre à ce moment-là, c'est qu'ils vont rester 7 ans, presque 8 même, sans se revoir. Il faut dire que ce moment-là, pour Balzac, c'est une période dure de son existence. Ses essais d'adaptation théâtrale sont autant d'échecs, ses dettes deviennent insurmontables. On peut dire que sa vie à Paris est vraiment un enfer. Alors en même temps, les dettes sont sans doute un aiguillon aussi, une motivation pour lui, pour travailler. Un jour, par exemple, qu'il bavarde avec un de ses visiteurs, il interrompt brutalement la conversation. « Bon, voilà bientôt une heure que nous causons de choses inutiles, vous m'avez déjà fait perdre 200 francs, lui dit-il. » À l'été 1840, Balzac ira jusqu'à se réfugier à Passy, qui n'est à l'époque qu'un village hors de Paris, vous savez, chez une de ses amies, Madame de Brugnolles, pour essayer d'échapper aux saisies. Elle a réussi quand même à créer autour de lui une sorte de havre de paix, afin qu'il puisse à nouveau se sentir bien et se remettre à l'écriture. Finalement, comme il le reconnaît lui-même, c'est la seule chose qu'il sache bien faire. Quand on lui demande « Si vous étiez riche, que feriez-vous ? » « Faillite », répond-il. Ainsi, Balzac publie et finit par renouer avec le succès à partir des années 1840. À cette époque, sa correspondance avec Madame Anska se fait plus rare. Elle s'est exilée dans son domaine d'Ukraine. Elle entend toujours parler des frasques de l'auteur. Évidemment, ça n'arrange pas les choses. En réalité, ces frasques-là sont bien moins nombreuses qu'elle ne l'imagine. « Menace-t-elle de ne plus le revoir ? Oh, ne m'abandonne jamais !» répond-il par retour du courrier, « car ce serait un assassinat. Ne détruis jamais la confiance qui est notre seul bien complet dans cet amour si pur. N'aie pas de jalousie qui n'auront jamais de fondement. Que veux-tu craindre ? Mes travaux te prouvent mon amour. » Il n'en fait pas moins une escapade en Italie quand même, avec Caroline Marbouti, et pour limiter les ragots et faire en sorte qu'Ève ne s'en rende pas trop compte, et il demande à sa compagne de se déguiser en homme. Et voilà sa maîtresse du moment transformée en petit page. Enfin, le 5 janvier 1842, arrive une lettre, alors celle-là, pas comme les autres, une lettre de la belle polonaise qui apprend à l'écrivain que le comte Anski est mort. Autrement dit, Madame Anska est veuve. Autrement dit, elle est libre, libre d'épouser qui elle veut pour Balzac. Cette nouvelle est un ravissement. Comme il le lui écrit, il en reste tout hébété pendant 24 heures, enfermé chez lui dans son cabinet, sans vouloir qu'on lui parle. Or, disons-le, à travers ce mariage enfin possible, c'est aussi la fin de ses misères financières qu'il entrevoit. Lui, il se dit que toutes ses terres, ses fermes, ses châteaux, ses équipages, tout ça pourrait bien être la solution définitive à cette exténuante partie de cache-cache qu'il joue depuis déjà tant d'années avec tous ses créanciers. Problème, Evelyne n'a plus l'air tellement pressée de l'épouser. Il le lui reproche. « Souvent, vous m'avez dit, patientez, on vous aime autant que vous aimez. Ne changez point, car on ne change point. Nous avons été courageux l'un et l'autre. Pourquoi ne serions-nous pas heureux aujourd'hui ? J'aurais voulu deux mots pour moi dans cette lettre. » Et je les ai cherchés en vain. C'est dur, décidément, ce pauvre Balzac n'aura pas eu une existence tellement souriante. Et, disons-le, Evelyne hésite. Il faut dire qu'elle est bien entourée, hein. Toutes ses amies lui dépeignent son fiancé potentiel sous les traits les plus noirs. « Il faudrait au moins qu'on se revoie, soupire-t-elle. Et surtout, avant que nous nous marions, il faudrait que vous résorbiez toutes ces dettes. Vous imaginez bien que c'est autant dire qu'ils ne se marieront jamais. » Il faudrait qu'on se revoie, a demandé la Polonaise. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Honoré de Balzac fait déjà ses bagages, il accourt.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un récit qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 à l'histoire d'Honoré de Balzac avec sa belle polonaise, Madame Anska.
Madame Anska qui vit donc en Ukraine et qui lui a dit, elle a eu l'imprudence étant maintenant veuve de dire à Balzac qu'il faudrait qu'on se revoie. Le voilà, il a pris la route, il est déjà malade, fatigué, c'est un voyage difficile. C'est Gonzague Saint-Brice qui nous raconte son arrivée le 13 septembre 1847 au coucher du soleil. Il aperçoit, nous dit Gonzague, à travers les arbres, une espèce de louvre, de temple grec doré par le soleil couchant. C'est une demeure de rêve dans laquelle il entre comme Candide au château de Thundertentronckh, sauf qu'il n'a plus l'âge d'être le héros de Voltaire, et sa Cunégonde pas davantage. Une longue allée de tilleuls, et voici la façade qui s'offre à lui, puis la porte d'entrée devant laquelle stoppe enfin la petite voiture. Des valets l'aident à s'extraire, s'emparent de sa malle et le conduisent à travers un dédale de pièces à l'appartement préparé pour lui, décoré de roses et rempli de meubles précieux. Il n'a que le temps de se changer pour aller retrouver Evelyne, qui l'attend pour dîner dans la chaleur des retrouvailles. Ah, cette fois, le ciel paraît quand même s'éclaircir singulièrement devant Honoré de Balzac.
De la campanella de Franz Liszt sur Europe 1.
C'est l'année Franz Liszt. Vous savez qu'on célébrera, on célébrera le bicentenaire le 22 octobre prochain. Et c'était un compositeur que Balzac appréciait particulièrement. Comme Rossini d'ailleurs. Nous ne choisissons tout de même pas ses musiques par hasard. Alors, Gonzague nous dit, ne pouvant s'éterniser dans la thébaïde ukrainienne, Balzac va quand même passer pas mal de temps hein, sur place. Il va y passer près d'un an, en fait, avec Madame Anska. Mais il finit par repartir pour Paris, où ses affaires l'attendent, le 30 janvier 1888, nous dit Gonzague, alors qu'il fait moins 21 degrés, il grimpe dans la kibitka enveloppée d'un somptueux manteau de renard que vient de lui offrir sa maîtresse, tandis que, suivant la coutume russe, les domestiques pleurent pour lui demander de rester avec eux et réclament une bénédiction qu'il ne saurait leur refuser. Un mois plus tard, en février, il arrive à Paris fourbu, et stupéfait de constater qu'une révolution qu'il n'avait nullement prévue a balayé en quelques jours la monarchie de Juillet. Et oui, c'est la révolution de 1848. Déjà, Balzac n'a pas le temps tellement de s'intéresser à tout ça. Il va se consacrer à la préparation de ce qu'il se figure comme leur nid d'amour, après tout, à ces deux tourtereaux. Il a acheté une maison rue Fortuné, qu'on appelle aujourd'hui la rue Balzac. Vous savez, quand vous êtes rue Balzac, si vous connaissez cet endroit, c'est cette espèce de très grand mur, hein, qui aujourd'hui est un mur aveugle. C'est aujourd'hui le parc de la Fondation Rothschild, où est mort Paul Doumer. Vous voyez que d'une semaine à l'autre, les événements se succèdent et se bousculent. Eh bien, autrefois, dans ce grand mur aveugle, il y avait des ouvertures, dont le portail de la maison que Balzac fait aménager, meubler, garnir de ses souvenirs de voyage. Les aquarelles de Renou nous permettent de nous faire une idée de l'atmosphère luxueuse et sans doute un peu chargée du nouveau logis où Balzac s'installe, avec un maître d'hôtel, une cuisinière, une femme de chambre, tous prêts à accueillir celle qui devrait devenir la nouvelle Madame Balzac. Et comme Ève tarde un peu, eh bien Balzac se décide pour un nouveau voyage via Bruxelles, Cologne, Hanovre, Berlin, Breslau, Cracovie, jusqu'à cette Ukraine où elle l'attend, donc à Wierzchownia. Il passe finalement, là encore, un an près d'elle, un séjour plus long encore que le précédent. Il est de plus en plus fatigué, Balzac. Il s'essouffle maintenant pour un rien, il va bientôt cracher du sang. J'ai envie de dire qu'il est trop tard pour le bonheur, en somme. De guerre lasse, je préfère dire ça encore que par pitié, Evelyne Anska finira par épouser Honoré de Balzac tout de même le 11 mars 1850, mais il n'est déjà plus qu'un mourant alors. Un mourant qui, durant la nuit de noces, s'accroche à sa main comme il s'accrocherait à la vie en murmurant « Oh mon loup, c'est comme ça qu'il l'appelle, mon pauvre loulou, mon Ève, mon Evelyne, je me sens mal, je vais mourir. » Le voyage de retour vers Paris par un temps effroyable relève cette fois du calvaire. Plusieurs fois Honoré croit qu'il est en train de rendre l'âme loin de son pays. Et l'arrivée rue Fortuné a quelque chose d'hallucinatoire. Il faut savoir que le valet est devenu fou entre-temps. Il a éclairé la maison à Giorno, mais il refuse d'ouvrir. Et lorsqu'avec l'aide d'un serrurier, Madame Anska, je devrais dire maintenant Madame de Balzac, parvient à entrer chez elle, c'est pour l'entendre proférer des paroles incohérentes. Balzac est néanmoins heureux de se voir de retour, mais déjà la gangrène l'attaque. Je cite Victor Hugo. Une vieille femme, la garde et un domestique se tenaient debout des deux côtés du lit. Une bougie brûlait derrière le chevet sur une table, une autre sur une commode près de la porte. Une odeur insupportable s'exhalait du lit. Je soulevai la couverture et je pris la main de Balzac. Elle était couverte de sueur. Je la pressai. Il ne répondit pas à la pression. Honoré de Balzac rend son dernier soupir le soir du 18 août de cette année 1850. À son chevet, Evelyne verse de chaudes larmes. On peut presque espérer que parmi ces larmes, il y en avait quelques-unes de remords.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Balzac, une vie de roman aux éditions Télémax, c'est le titre du livre de notre invité, par ailleurs bien connu des auditeurs d'Europe 1, puisqu'il s'agit de Gonzague Saint-Brie.
Bonjour Gonzague, merci beaucoup d'être des nôtres. Ce livre est un régal, Balzac, une vie de roman, c'est un peu comme dans la série de ce que vous aviez lancé avec François Ier, c'est-à-dire qu'on suit toute l'existence évidemment de Balzac, et puis assez souvent il y a comme un coup de projecteur, vous appelez ça un médaillon, sur un aspect un peu particulier. Ce qu'il faut dire Gonzague, c'est que vous-même, par votre famille, vous descendez de l'éditeur, d'un des éditeurs de Balzac.
Tout à fait. Entre Balzac et moi, l'encre a pris la place du sang parce que, par ma mère, qui est Agnès Mam, je descends directement du premier éditeur de Balzac, celui qui a fait confiance au jeune Honoré et qui a publié d'ailleurs le livre qui va lui apporter le suffrage de toutes les femmes les scènes de la vie privée et qui va permettre, comme vous l'avez si bien raconté, que Madame Anska le connaisse.
Alors on a justement parlé de l'Ukraine et de Paris, mais Balzac c'est avant tout la Touraine. Et d'ailleurs Tours lui rend un hommage particulier aujourd'hui.
Tout à fait, c'est avec le maire de Tours que j'ai eu cette idée. Et en fait, puisque nous sommes le jour de la naissance d'Honoré de Balzac, dans la rue qui s'appelait...
Le 20 mai donc.
Voilà, c'est la rue nationale aujourd'hui, mais c'était la rue de l'armée d'Italie. Donc nous avons eu l'idée de faire d'une façon créative et éphémère des paraphes sur les trottoirs, des empreintes imprimées de façon éphémère avec une encre biodégradable, avec l'effigie de Balzac et aussi ces lieux de la ville de Tours qui ont été si importants. Par exemple, dans le Vieux-Tours, il y a une pension Vauquer où allaient les deux sœurs de Balzac. Dans cette pension, le nom va devenir le fameux nom de la pension Vauquer où Rastignac va rencontrer Vautrin à Paris.
On peut aller à Saumur aussi, sur les traces des Grandets, en fait, etc. Il y a toute une géographie balzacienne. Ça donne d'ailleurs des idées de voyage et de promenade.
Voilà, et à Tours, par exemple, moi j'ai été pendant longtemps, j'ai fait mes débuts dans le journalisme à Tours, à la Nouvelle République, et j'habitais chez mon oncle curé de Tours, le chanoine Saint-Brice, dans le décor du livre « Le curé de Tours » de Balzac, en face de la cathédrale Saint-Gatien.
C'est fascinant, hein, tout ça. Alors, vous avez eu un grand nombre de liens, si on peut dire, avec Balzac. Et au moment, ça c'est un drame de votre existence, Gonzague, au moment où votre bibliothèque a brûlé, ça c'est une, quand on aime les livres comme nous, c'est une des choses les pires qui puissent exister. Donc, vous avez une grande partie de vos manuscrits, enfin de vos autographes, etc., qui ont brûlé. Et le propriétaire du musée des manuscrits de Paris, ce musée des lettres et des manuscrits dont on parle régulièrement à cette antenne, vous a fait une sorte de cadeau.
Tout à fait, parce que
c'était faire un privilège.
Évidemment, pour un écrivain, qu'est-ce qu'il y a de plus désespérant que de voir sa bibliothèque brûlée, ses autographes calcinés, enfin tout ce qu'on a accumulé, tout ce qu'on aime disparaître. Alors beaucoup d'amis ont essayé de me consoler en me disant « Mais c'est arrivé à des plus grands que toi, Mérimée, sa bibliothèque a brûlé, Aldous Huxley, sa bibliothèque a brûlé. »
Dans ces cas-là, on a envie de dire « Ça me fait une belle jambe. »
Oui, exactement. et justement, j'ai reçu ce coup de téléphone de Gérard L'Héritier que je connaissais parce qu'il collectionne les belles lettres et qu'il est le fondateur, président fondateur du musée des lettres et manuscrits. Et il me dit « Venez me voir dans mon bureau, je crois que j'ai quelque chose qui peut vous consoler. » Et je dois dire qu'il a sorti de son coffre un carnet au papier marbré qu'il a ouvert devant moi. Et en fait, ce carnet était le carnet secret de Balzac que ce dernier a utilisé pendant toute la durée de l'écriture de la comédie humaine.
Ça va de février 33, que je ne dise pas de bêtises, hein, février 33 à septembre 33, c'est ça, 56 c'est, feuillets de notes.
Voilà, des notes. Alors c'est extraordinaire ce cahier. D'ailleurs, il en parle, Balzac, il écrit à Madame Ranska.
Il y a des dessins dessus.
C'est le grand parc de mes idées. Il écrit à sa sœur Laure Surville en disant « C'est mon garde-manger, il y a tout dedans ». Et puis, il dit lui-même « C'est mon livre où j'ai mis toutes les pensées de mes ouvrages et tant de choses ».
Alors, c'est extraordinaire. On a l'impression de pénétrer dans son mental, en fait.
Ah, on comprend. Alors d'abord, c'est vraiment la genèse de la création de la comédie humaine. Il y a une description du père Goriot en quatre lignes. Il y a des proverbes qui sont trafiqués. Un jour l'ennui naquit de l'université. Il y a des espèces de calembours. Il ne faut pas courir deux lèvres à la fois, etc. Et en même temps, il y a des plans, des maisons qu'il voudrait faire. Et puis, Madame Anska y a mis la main. Parce qu'à un moment, il dit qu'un grand homme est un rocher auquel s'accroche les huîtres. Alors Madame Anska dit « Ah bon, alors je suis une huître ?» Et ce carnet est prodigieux parce qu'aussi il y a les romans futurs qu'il veut faire. Par exemple, il y a les explications que j'ai retrouvées de ce que j'avais par MAM, c'est-à-dire le roman « La bataille ». Est-ce que c'est la bataille de Marengo ? Est-ce que c'est la bataille de Wagram ? Et puis aussi, surtout, extraordinaire, Balzac pense toujours au futur. Il décrit le roman qu'il va faire sur la fin du monde. Et il explique la fin du monde, comment se passera la fin du monde. Ça sera une orgie générale.
À Un extrait de l'ouverture de Guillaume Tell, signé Rossini sur Europe 1, Franck.
Rossini, une des passions musicales de Balzac, qui en avait pas mal, hein, d'ailleurs, Gonzague, vous racontez qu'il avait une vraie fascination pour la musique.
Il connaissait très bien
Berlioz,
la musique.
Notamment. Hein.
Absolument, il avait une passion pour Berlioz.
Beethoven, il dit Beethoven est le seul qui me rendrait jaloux, c'est ça?
C'est magnifique. Et en plus, son amour de la musique va jusqu'à l'amour des femmes, qui est très grand chez lui, puisqu'il a été l'amant d'Olympe Pélissier, qui va devenir la femme de Rossini.
Alors, puisqu'on parle de maîtresse et d'amant, un mot quand même sur cette Madame Anska, dont j'ai raconté l'aventure largement épistolaire, du reste, dans la première partie de l'émission. C'est fascinant pour un écrivain d'entretenir une relation amoureuse d'abord si longue, et qui est... pas essentiellement, mais qui est en grande partie une relation épistolaire. C'est une relation, c'est un amour d'écriture, en quelque sorte.
Tout à fait, c'est une chose d'aujourd'hui. On aurait pu croire qu'il lui envoie un SMS quand
c'est
il
ça,
met...
Oui.
Et en même temps, et vous l'avez très bien raconté, parce que c'est une relation qui est profondément liée à la création littéraire, mais elle n'en est pas moins extrêmement sensuelle. 18
oui,
ans
sûr,
d'amour,
oui.
16 ans d'attente, 2 ans de bonheur, 6 mois de mariage, et il meurt. Mais comme vous l'avez raconté tout à l'heure, ce qui est extraordinaire...
Voilà ce qui va donner envie aux auditeurs de podcaster, ne serait-ce que pour réécouter cette
histoire. Je le souhaite.
Et alors l'histoire de la rencontre entre Balzac et Madame Anska est absolument d'autant plus extraordinaire, comme vous l'avez raconté, une première rencontre où elle lui donne rendez-vous sur le ponton du lac de Neuchâtel. Mmh. Et elle dit, je vous attendrai, je tiendrai dans ma main droite votre dernier roman, La femme de 30 ans, quel chef-d'œuvre. Et quand elle voit arriver, elle qui est une très belle femme, ce petit boudin d'un mètre 60 qui est
ouais,
Balzac...
Il n'est pas très gâté par la nature, il faut
bien dire.
Elle se
dit, non, ça, je ne pourrai pas, j'y arriverai jamais. Et à ce moment-là, Balzac se met à genoux devant elle, il lui parle avec ses yeux bruns, pailletés d'or, avec une telle passion qu'elle vacille. Elle dit, ah oui, peut-être. Oh non, 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 finalement, non, non. Et en effet, elle ne fera pas l'amour avec lui lors de cette première rencontre. C'est quelques mois plus tard, à Genève, près l'évêque, le 26 janvier, que là, il est malade, il est dans l'auberge de l'Arc, il est couché. Elle lui apporte du sirop d'orgeat. Et cette fois-ci, elle est décidée. Parce qu'ils se sont beaucoup écrits entre-temps. Elle a mesuré qui il était, ce qu'elle elle a toujours cru en lui. Et là, la scène est inouïe. Parce qu'elle entre dans la chambre de l'auberge. Elle laisse... Balzac est couché dans le lit. Elle est debout. Elle laisse tomber sa robe gris perle sur le parquet. On voit ses belles épaules, ses beaux seins. Une étreinte torride, inouïe entre les deux. Et après l'amour, qu'est-ce qu'il fait Balzac alors qu'elle s'est assoupie? Il va jusqu'au bureau, il saisit une paire de ciseaux, il revient vers la robe grise de Madame Anska qui est sur le parquet, il la découpe, il la met dans sa malle de voyage. Il rentre à Paris, rue des Batailles.
Il y a un côté fétichiste chez ce Balzac.
Oui, il rentre à Paris, rue des Batailles, où il habite près de l'Arc de Triomphe qui est en train d'être bâti, il y a de la poussière, des coups de marteau. Et là, il y a son relieur qui vient le voir. Vous savez, quand on vient voir Balzac, il faut avoir le code... Parce qu'il y a tous ces huissiers, comme vous l'avez dit, qui le poursuivent. Donc, on lui dit, oui, montez, monsieur Balzac vous attend. Et là, le relieur lui dit, écoutez, votre dernier livre, c'est Raffita, formidable, très bonne critique. Vous voulez que je vous le relie en quoi, là? J'ai du chagrin, rouge, vert, des cuirs. Non, dit Balzac, laissez-moi faire. Il passe dans la pièce d'à côté. Il se penche vers la malle de voyage. Il prend le morceau de la robe grise de madame Ranska, talisman sexuel, testament amoureux. Et il dit au relieur, c'est dans ce tissu, et dans ce tissu seulement, que vous relirez Serafita.
Quel dommage que Madame Anska n'ait pas répondu tout à fait à l'extrême ardeur d'Honoré de Balzac. Elle s'est montrée quand même sur la fin un peu décevante. Elle a bien tardé à l'épouser. Elle n'a pas été l'amoureuse... extraordinaire qu'il était en droit d'attendre.
Oui, mais Franck Ferrand, est-ce que ce n'est pas la bonne solution? Est-ce que Balzac aurait écrit 85 romans de la comédie humaine, 140 livres en tout, avec 2500 personnages, si Madame Anska avait été toujours auprès de lui? C'est l'avantage de l'égérie lointaine. Et il le dit d'une certaine façon, avec délicatesse. Travail, s'ordonne-t-il lui-même, petit auteur de la comédie humaine, paix, ton luxe, expie tes folies et attends ton Ève dans l'enfer de l'encrier du papier blanc.
Finalement, Madame Anska va donner satisfaction à Balzac. Elle l'épouse tout à fait sur le tard, mais il est déjà mort lorsqu'elle va régler ses dettes. Elle le fera néanmoins, ne serait-ce que pour rester dans la maison de la rue Fortunée. Elle y vivra encore 32 ans, puisqu'elle ne meurt qu'en 1882, dans cette maison d'une rue Fortunée qui depuis a été rebaptisée la rue Balzac.
Et elle fera quand même des choses très bien, parce que grâce à elle, la totalité de la comédie humaine va être parachevée. Ensuite, elle a eu un rôle très important. Elle a donné des idées de romans comme Modeste Mignon à Balzac. Et elle sera tout à fait parfaite pour la pérennité de cette œuvre immense qu'elle a inspirée.
Alors, ce qu'il y a de plus fascinant dans votre ouvrage, Gonzague, ce sont ce que j'appellerais les pépites, c'est-à-dire les choses assez inattendues, même totalement inconnues. J'aimerais qu'on revienne sur un certain nombre de ces zones d'ombre de la vie et de l'œuvre de Balzac dans les quelques minutes qui nous restent.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Honoré de Balzac est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1 et c'est Gonzague Saint-Brie qui nous en parle, Franck.
Je suis inexplicable pour tous, nul n'a le secret de ma vie, disait Balzac, mais vous l'avez, Gonzague.
Et justement, c'est à partir de cette phrase que je me suis décidé à dire à nous deux Balzac. Car j'ai compris que...
Comme d'autres avaient dit à nous deux Paris, Rastignac en l'occurrence.
Ce qu'il cache dans sa vie intime, il le délivre dans son œuvre. C'est pourquoi j'ai construit cette biographie à la fois verticale et horizontale, où chaque fois, l'œuvre vient au secours de la confession de la vie.
Une vie vécue très pleinement. Il faut savoir que Balzac aimait tout. Il était un collectionneur d'art et de souvenirs de voyage. Il adorait la cuisine. La table était pour lui essentielle. D'ailleurs, il va écrire un livre de recettes, comme son copain, si je puis dire, Dumas. Il a des admirations. On a parlé de la musique, mais il y a la photo. L'invention de Daguerre est pour lui une sorte de révolution qui le fascine sur toute la fin de sa vie. L'occultisme, vous avez raison. Oui, je n'y pensais pas, mais tout le côté spirit, etc., qui est très important. Et puis, il a une grande fascination, comme énormément des gens de sa génération, c'est l'empereur, c'est Napoléon, pour lequel il éprouve une sorte de culte.
Et d'accord, et en plus de ça, ce qui est extraordinaire chez lui, c'est que l'admiration le porte à la création. Par exemple, à propos de Napoléon Bonaparte, il va dire « Ce qu'il a commencé par l'épée, je l'achèverai par la plume. » Il veut, il a ce goût
de pouvoir. Il est le Napoléon des lettres.
Ouais. Il veut être le Napoléon des lettres. Il dit d'ailleurs quelque part, je veux le pouvoir en France. Et pour bien connaître Napoléon, eh bien, il a trouvé le truc formidable, c'est qu'il devient l'amant de la duchesse d'Abrantès, qui est la femme du héros de l'Empire, Junot, duc d'Abrantès.
Et qui a connu Napoléon tout jeune, du reste.
Et qui va tout lui raconter sur Napoléon. Et en même temps, on s'aperçoit, alors là, vous avez raison, Franck Ferrand, parce qu'on s'aperçoit que dans toute l'œuvre de Balzac, la comédie humaine, bien sûr, il y a l'exemple très connu du colonel Chabert, mais justement dans ces pépites que j'ai voulu vous montrer dans mon livre, j'ai voulu...
Oui, venons aux pépites.
Ce sont les textes peu connus de Balzac qui sont tellement révélateurs sur le fait qu'il est capable de s'intéresser sans aucun tabou à tous les sujets. Par exemple, une passion dans le désert. C'est l'histoire d'un officier de l'armée de deux sexes de Napoléon pendant la conquête d'Égypte qui est dans le désert et il a froid. C'est la nuit qui vient. Il se couche dans une espèce de trou de grotte et pendant qu'il est couché, il sent des caresses voluptueuses, un corps qui se love contre lui. Il répond à ses caresses et tout d'un coup, il voit que la personne qui est à côté de lui a des yeux verts brillants. Mais c'est une panthère. Donc Balzac est capable de parler
loin,
de l'amour
cette histoire, oui.
Avec un animal et la panthère qu'il a caressé, tout d'un coup, il a peur qu'elle le tue et il va faire le geste de la poignarder et tout d'un coup, il voit dans ses yeux à elle. « Mais comment tu me fais ça ? Nous nous aimions. » Ça, c'est un texte hallucinant de Balzac. Il y en a un autre qui est extraordinaire aussi, qui s'appelle « Adieu ». Ça se passe pendant la retraite de Russie. Il y a un jeune officier qui est amoureux de la femme du général, la comtesse Stéphanie. Et là, on est dans la Bérézina, on est dans les glaçons, on est dans les barques qui se renversent. Et lui, il se dit, si je veux l'aimer, si je veux la retrouver un jour en France, je dois la sauver avec son mari. Et il la pousse sur une chaloupe et il voit la chaloupe qui s'en va au milieu des glaçons. Et il se dit, je l'ai sauvée. Il est prisonnier des Russes et 5 ans après, il revient en France. On lui dit la comtesse Stéphanie est morte. Eh bien, pendant une chasse où il est invité pendant l'hiver, on lui dit non, elle est là, elle habite à côté d'ici. Il va la voir, il s'appelle Philippe, elle ne le reconnaît pas, elle est devenue folle, elle ne parle plus. À ce moment-là, il décide non, c'est pas possible, je veux l'aimer, je veux la rendre à la vie. Et il a une idée inouïe dans sa propriété. Il attend l'hiver d'après. Il fait construire des pontons. Il habille ses paysans en soldats de l'armée, de la retraite de Russie. Et quand la neige tombe, il a fait venir la comtesse Stéphanie pour qu'elle se retrouve dans la même situation. Et là, effectivement, tout d'un coup, elle le regarde. Lui, il a mis son costume d'officier. Elle le regarde. Elle le reconnaît. Elle parle. Elle lui dit son prénom, Philippe. Et elle meurt. Adieu de Balzac.
Et ça, voilà, ça fait partie des textes assez inconnus que vous exhumez, en quelque sorte. Il y a énormément dans votre biographie, il y a énormément d'anecdotes, bien entendu. On a fait là vraiment qu'effleurer un sujet. C'est un continent, Balzac. Hein, c'est un personnage immense, bien entendu. Même s'il n'a vécu finalement que 51 ans, mais alors, il les a vécus avec une intensité à peine croyable. Nous ne reviendrons pas aujourd'hui, parce que là, on n'en aurait pas le temps, surtout les aspects de sa jeunesse, sur sa relation très difficile avec sa mère notamment, qui a pesé comme une ombre sur l'ensemble de son existence, sur ses questions d'identité aussi, puisqu'il ne s'appelait pas Balzac au fond.
Absolument, il s'appelait Balzac et il s'est appelé après de Balzac.
Comme le grand écrivain du XVIIe siècle en fait, voilà. Volontairement.
Et il se baladait toujours avec les armoiries des Balzac d'Entraigues. Mais ce qui est extraordinaire pour aller très vite sur sa mère, c'est que je crois avoir trouvé le secret. C'est parce que sa mère ne l'aimait pas qu'il est devenu le père de ses propres personnages.
Mmh. 573 personnages dans la comédie humaine, disait Juliette tout à l'heure. Et 3000 en tout. Oui, ça. 3000 figures et 573 personnages historiés. Ce qui est complètement extraordinaire.
Oui, car il a inventé. Un jour, il rentre chez lui à déjeuner dans sa famille. Il a 15 ans. Et il dit, regardez-moi bien. Notre nom Balzac restera à jamais. Pourquoi ? J'ai inventé un système dans le roman, faire reparaître les personnages dans différents romans. Cela me rendra célèbre.
Oui, il n'était pas toujours fâché avec lui-même. Je suis en train de devenir un génie, dit-il aussi, quelque part. C'est un génie unanimement salué et respecté dans le monde entier, Balzac. En Russie notamment, il est une sorte de personnage tutélaire, hein, dans l'Union soviétique, mais aussi dans la Russie d'aujourd'hui. Hein.
L'autre jour, j'étais à Moscou. Et Balzac est né la même année que le grand poète russe Alexandre Pouchkine. Et vous savez ce que disent les Russes, ils le disent toujours, « Veliki Balzac », ça veut dire « Balzac est grand ». Et l'autre jour, j'étais à Tours. Eh bien, à Tours, il y a la plaque rue nationale de Balzac. Et là, c'est une pharmacie. Et devant, moi j'étais à l'intérieur de la pharmacie et je vois devant les Asiatiques qui se penchent sur la plaque.
C'était des visiteurs chinois ou japonais, c'est ça ?
Asiatiques, ils adorent Balzac.
Ouais. Balzac est célèbre et en Amérique du Nord aussi, hein, il faudrait le dire. Enfin bref, c'est vraiment l'un de nos très grands écrivains. Je suis ravi qu'on ait pu lui rendre hommage aujourd'hui de façon parcellaire, mais j'espère qu'on aura donné envie à nos auditeurs de lire cette belle biographie, Balzac, une vie de roman. C'est chez Télémaque. Une virgule un peu longue à venir, mais l'essentiel, c'est que Faustine soit là avec nous. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Bonjour. Pour finir cette semaine, on va consacrer notre émission à la Flamme Marie-Claire, cette opération caritative qui vient en aide aux jeunes filles, petites ou plus grandes d'ailleurs dans le monde, pour favoriser leur accès à la scolarité. D'ici quelques instants, on sera avec Tina Kieffer et Catherine Laborde qui s'engagent cette année encore pour cette cause. On attend tous vos témoignages et vos commentaires. Est-ce que vous évoquez souvent avec votre fils ou votre fille les conditions de vie des enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école ? De quel quelle manière vous abordez le sujet. Qu'est-ce que c'est être féministe en 2011? On en parle au 39-21, faustine.europe1.fr pour tous vos témoignages, Franck.
Nous, ce que nous venons de voir, c'est ce que c'était qu'être féministe en 1830, parce que on ne l'a pas dit, on n'a pas eu le temps, mais Balzac était aussi un féministe. Merci beaucoup, Faustine.
Merci,
et à
Franck,
lundi.
Avec plaisir, bon week-end, Franck, à lundi sur Europe 1.